Chapitre 16. Karl. Mais à présent, le Texas était invisible, de même que les États-Unis. Bien que le flux de plasma des moteurs eût été depuis longtemps coupé, Explorateur 1 continuait de s'éloigner de la Terre comme une flèche de métal lancée vers les planètes extérieures, son destin fixé par le dispositif optique automatique qui le guidait. Un unique télescope, cependant, demeurait en permanence orienté vers la Terre. Il était monté à la façon d'une lunette sur l'antenne principale et veillait à ce que le grand réflecteur parabolique fût constamment pointé sur sa cible. Aussi longtemps que la Terre demeurait au centre du viseur, le lien était maintenu et les messages circulaient au long du faisceau invisible qui, chaque jour, s'allongeait de plus de 2 millions de milles. Une fois au moins à chacun de ces quarts, Bowman vérifiait l'alignement du télescope antenne. La Terre, à présent, était dans le Soleil et présentait son hémisphère obscur au vaisseau. Sur l'écran, elle n'était plus visible que comme un fin croissant argenté que rien ne distinguait de Vénus. Il était impossible de déceler le plus infime détail géographique dans cet arc de lumière voilé de brume et de nuages, mais la zone obscure était fascinante avec les multiples points de lumière des villes dans la nuit qui brillaient parfois d'un éclat fixe ou clignotaient sous les turbulences de l'atmosphère. Il y avait aussi des périodes où la Lune, passant et repassant sur les continents et les océans sombres, était comme un lampion géant. Bowman alors parvenait à déceler le tracé de quelques côtes familières à la clarté spectrale du satellite. À d'autres moments, quand le Pacifique était calme, il pouvait même distinguer le reflet du clair de lune à sa surface, et il se souvenait alors des nuits passées sous les palmiers au bord des lagons. Pourtant, il ne regrettait en rien toutes ces merveilles perdues. Il avait profité de ses 35 années de vie et il était bien décidé à en profiter à nouveau lorsqu'il reviendrait riche et célèbre. La distance rendait toute chose infiniment plus précieuse. Le sixième membre de l'équipage se souciait bien peu de tout cela, car il n'était pas humain. Il s'agissait de Karl 9000, l'ordinateur le plus perfectionné qui fût, cerveau et système nerveux de l'astronef. Karl, sigle de son appellation officielle, cerveau analytique de recherche et de liaison, était le chef-d'œuvre de la troisième génération des ordinateurs. Ces générations semblaient se renouveler tous les 20 ans et la simple pensée que la quatrième était imminente semblait contrarier beaucoup de gens. La première génération remontait à 1940. À cette époque, le tube sous vide avait rendu possible la création d'idiots électroniques tels qu'ENIAC et ses descendants. Et puis, en 1960, la microélectronique avait connu sa grande période de développement. Avec elle, il apparaissait clairement que des cerveaux artificiels aussi puissants que celui de l'homme et de format réduit pouvaient être créés si l'on savait comment s'y prendre. Nul ne devait probablement jamais le savoir, et ce fut sans grande importance car, en 1980, Minsky et Good démontrèrent que les réseaux nerveux pouvaient être créés automatiquement, auto-engendrés, selon n'importe quel programme d'instruction arbitraire. Ainsi, on pouvait obtenir des cerveaux artificiels selon un procédé analogue à celui qui aboutissait au cerveau humain. Les détails de cette conception resteraient toutefois à jamais inconnus. Ils étaient de toute façon des millions de fois trop complexes pour être accessibles à la compréhension humaine. Mais quel que fût le principe de base, le résultat était une machine capable de reproduire, certains philosophes préféraient dire « imiter », la plupart des activités du cerveau humain plus rapidement et plus sûrement. Cela revenait très cher et jusqu'à présent, quelques modèles seulement de Karl 9000 avaient été construits. Karl avait été entraîné aussi sévèrement que ses compagnons humains en vue de cette mission. Il avait un avantage sur eux en plus de sa vitesse d'assimilation. Il ne dormait jamais. Sa tâche principale était de contrôler les systèmes vitaux, de vérifier en permanence la pression d'oxygène, la température, l'étanchéité, le taux de radiation et les multiples facteurs dont dépendaient les fragiles existences humaines. Il lui fallait également opérer les complexes corrections de navigation et les manœuvres qui seraient nécessaires lorsqu'il faudrait modifier le cap. Il était également capable de surveiller les hibernateurs, d'opérer toute modification dans leur milieu et de régler les dosages précis des liquides injectés aux dormeurs par voie intraveineuse. Les premières générations d'ordinateurs avaient été éduquées à partir de claviers semblables à ceux de machines à écrire et avaient répondu par l'entremise d'écrans et de téléscripteurs ultra-rapides. Karl pouvait opérer ainsi lorsque cela était nécessaire, mais en général, il communiquait avec ses compagnons par la parole. Poole et Bowman s'adressaient à lui comme à un être humain et il leur répondait dans l'anglais idiomatique qui lui avait été enseigné durant son enfance électronique. Quant à savoir s'il était réellement doué de penser, la question avait été résolue dans les années 40 par le mathématicien britannique Alan Turing. Turing avait déclaré que si un homme était capable de converser longuement avec un ordinateur, peu importait que ce fût par l'intermédiaire d'un clavier ou d'un micro, sans distinguer de réelle différence entre ses réponses et celles que tout homme aurait pu donner, alors cet ordinateur pensait vraiment, selon l'exacte définition du terme. Karl eut passé facilement le test de Turing. Il pouvait même, s'il en était besoin, assurer le commandement du vaisseau. En cas d'urgence, si nul ne répondait à ses signaux, il pouvait réanimer les hommes endormis par stimulation chimique ou électrique. S'il ne réagissait pas, il devait demander de nouvelles instructions par radio à la Terre. Et s'il n'obtenait aucune réponse, il était alors libre de prendre toute mesure qu'il pouvait juger nécessaire pour assurer la sauvegarde du vaisseau et la réussite d'une mission dont lui seul connaissait le but véritable que ses compagnons humains étaient bien loin de soupçonner. En plaisantant, Poole et Bowman se considéraient souvent comme des concierges ou des intendants à bord de ce vaisseau capable de se diriger par lui-même. Ils auraient été bien étonnés et sans doute indignés de découvrir qu'ils n'étaient pas très éloignés de la vérité.